Alors, je n'aurai qu'une partie d'entre vous, je vous ai déjà salué, en tout cas pour tous ceux qui étaient là en début de culte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Philippiens. On va continuer notre étude de l'Épître aux Philippiens. Alors, Bruno, si tu peux mettre la diapo suivante, qui donne une sorte de résumé du thème d'aujourd'hui. Alors, bon, c'est un peu particulier parce que c'est un verset plutôt dans les Romains. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. C'est un peu le résumé du thème d'aujourd'hui dans Philippiens 1. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Voilà, Paul va même le dire plus positivement, il est fier de l'Évangile. Paul est en prison, on dira qu'il est humilié, contraint et limité, et on se rend bien compte que les chrétiens de Philippe ont honte parce que leur pasteur est en prison. Mais Paul n'a pas honte, bien au contraire, parce que l'Évangile est précieux, parce que l'Évangile est sa fierté, parce que finalement sa fierté est en Jésus-Christ. Il va, vous verrez, dans le texte qu'on va lire tout à l'heure, utiliser plusieurs expressions. Soit il utilise le mot « évangile » directement. Vous savez qu'évangile veut dire « bonne nouvelle ». C'est simplement en grec, ça veut simplement dire littéralement « bonne nouvelle ». Parfois, il parle de parole de Dieu, parfois, il parle de salut, de grâce, ou encore d'être avec Christ. « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. » Voilà, la diapo suivante, c'est juste un très très court rappel de ce qu'on a vu la dernière fois et qui, évidemment, vient juste avant. Donc, on va retrouver beaucoup d'éléments sur ce même thème. Notre valeur suprême, c'est le fait d'appartenir à Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. C'est finalement ça notre fierté, parce que notre valeur, elle dépend de ça. Nous sommes des serviteurs du Seigneur, du Créateur de l'univers. Et vous verrez dans toute la suite de l'Épître que l'apôtre Paul va dénoncer toutes sortes d'autres manières, on va dire, de se faire mousser, d'essayer d'avoir ce sentiment en nous qu'on a de la valeur. Et ici, il va commencer par dire notre valeur, notre fierté vient de Christ, vient de l'Évangile. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va lire un passage relativement long ce matin, Philippiens 1, les versets 12 à 30. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi redoublent-ils d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité, mais d'autres annoncent Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour, ils savent que si je suis ici, c'est pour défendre l'Évangile. Quant aux premiers, ils annoncent Christ dans un esprit de rivalité avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Qu'importe après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir, car je suis certain que toutes ces épreuves aboutiront à mon salut grâce à vos prières pour moi et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Car ce que j'attends et que j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne, avec une pleine assurance, la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. Pour moi, en effet, la vie c'est Christ, et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrai encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais donc pas que choisir. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous tous pour contribuer à votre progrès et à votre joie dans la foi. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons, à cause de moi, de placer votre fierté en Jésus-Christ. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi, que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous, celui que vous êtes sauvés, et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. Voilà. Un passage assez long, je ne pourrai bien sûr pas tout commenter. Bon, on va s'arrêter sur quelques points qui me semblent importants. Le premier, c'est que l'évangile vaut bien mieux que la vie. Je pense que vous l'avez bien entendu tout au long de cette lecture, que c'est bien ce que l'apôtre Paul nous dit ici. Sa vie, ses souffrances, ses difficultés, bon, évidemment, c'est important, mais il y a bien plus important que ça, c'est l'évangile de Christ. Je vous ai collé ici deux morceaux de versets qui le disent, mais il le dit de bien d'autres manières dans ce passage. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'évangile. Et un tout petit peu plus loin, il dit « Christ est annoncé et je m'en réjouis ». J'allais dire qu'on sent presque un peu de surprise de la part de Paul. Même si le Saint-Esprit lui avait annoncé qu'il serait arrêté à Jérusalem, il n'est bien sûr pas enchanté de cela. Paul, ce n'est pas quelqu'un qui aime le martyre, mais c'est quelqu'un qui constate que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, comme il l'écrit aussi de Romains 8, 28. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. Il le développe ici en parlant notamment de la garde prétorienne. La garde prétorienne, c'est la garde rapprochée de l'empereur. Et il dit que toute la garde prétorienne est au courant du motif de son arrestation. Et à la fin de l'épître, en 82, il donne des salutations donc aux chrétiens de Philippe, de la part des chrétiens qui sont au service de l'empereur. Autrement dit, il est en train de dire que parmi ces gens au service de l'empereur, il y a des gens qui se sont convertis. Et si Paul n'avait pas été en prison, sans doute, il n'aurait pas pu leur annoncer l'évangile. Dans le livre des Actes, Luc raconte aussi que beaucoup de responsables juifs de Rome sont aussi venus écouter l'apôtre Paul dans sa prison. Et on imagine que là aussi, il y a eu des conversions. On sait que Paul avait prévu de passer à Rome pour visiter les chrétiens de Rome, puis ensuite de partir en Espagne pour fonder des églises. Il n'a pas pu le faire, il en a été empêché, il a été emprisonné, mais il constate que, quoi qu'il en soit, même si son projet initial n'a pas eu lieu, il y a un champ de mission, il y a eu du fruit à son ministère. Je sais que certains d'entre vous n'ont pas choisi d'être à Chartres. Plusieurs souffrent du mal du pays, on va dire ça comme ça. Certains n'ont pas le métier dont ils rêvent. Certains sont bloqués par des problèmes de santé. Paul dit ici que là n'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est l'évangile. C'est de saisir les opportunités que Dieu nous donne pour que l'évangile se répande là où nous sommes. Là où nous sommes, envers les gens que nous côtoyons. Je m'en rappelle, dans notre église de Nancy, un des pasteurs qui était venu avant moi avait eu des gros soucis, c'était avec une jambe, et du coup, il y a eu plusieurs kinés qui se sont convertis. Vous voyez la logique ? Ouais. Le Seigneur nous place à un endroit, eh bien, oui, il va y avoir des opportunités pour que l'évangile se répande. À nous aussi de prier pour cela. Courant du mois de juillet, j'avais entendu à la radio, on écoute souvent France Inter chez nous, hein, et il y avait un interview de Marie Pierce. pas si vous connaissez, cette sportive qui est maintenant entraîneur, entraîneuse, je ne sais pas comment on dit aujourd'hui maintenant. Et évidemment, les journalistes qui étaient là ont commencé à la taquiner en disant « Ah, on a appris que vous étiez devenue bigote », enfin un truc du genre, quoi. Et puis elle ne s'est pas laissée démonter, elle a raconté comment elle s'était convertie et elle a parlé de sa foi en Jésus. Pour elle, en l'occurrence, elle a une fois parlé de ces questions à une joueuse américaine, ils étaient dans le vestiaire ensemble, et la joueuse, semble-t-il, lui a dit de manière assez directe « Ce qu'il te manque, c'est de te repentir, de recevoir le pardon et de vivre avec Jésus ». Bon, elle est devenue convertie, elle est devenue chrétienne après ça. Donc ensuite, voilà. Elle n'était vraiment pas dans un cadre qui était prévu pour annoncer l'évangile, mais elle a saisi cette opportunité, elle a parlé de sa foi. J'ai trouvé que c'était un bon exemple. Prions pour des opportunités, même auprès de gens où on ne s'imaginait pas forcément qu'ils sont intéressés par l'évangile, parce que finalement, l'évangile vaut bien mieux que notre propre vie. Ce qui compte, c'est que Christ soit annoncé. Ouais. Un autre point que j'avais noté, c'est, qui va dans le même sens, ou qui prolonge celui-ci, c'est que notre vie est appelée à servir l'Évangile. Ouais, toujours pour la même chose, hein, c'est une autre manière de dire la même chose. L'Évangile vaut bien mieux que notre vie. Et l'apôtre Paul va dire ici qu'il est important que notre vie serve l'Évangile. Il faut veiller pour que notre vie ne ternisse pas l'Évangile, finalement. Alors, je vous ai mis là aussi deux versets. Alors, désolé, du coup, ça apparaît tout petit sur le vidéoprojecteur. Au verset 20, « Ce que j'attends et j'espère de toutes mes forces, c'est de n'avoir à rougir de rien, mais au contraire, maintenant comme toujours, de manifester en ma personne avec une pleine assurance la grandeur de Christ, soit par ma vie, soit par ma mort. » Voilà comment Paul parle de sa vie. Ce qui compte, c'est de manifester la grandeur de Christ, qu'il vive ou qu'il meure, qu'il soit en prison ou libre, finalement. C'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte, c'est que par sa vie, la grandeur de Christ puisse être manifeste. Et il va dire ça plus ou moins la même chose, mais pour nous, du coup, en tout cas pour les Philippiens, et du coup pour nous aussi. C'est au verset 27, c'est un tout petit peu plus loin, où il dit « Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile de Christ, en vrai citoyen du royaume. Tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur l'évangile. » Il parle ici de la nécessité d'avoir une vie digne de l'évangile de Christ. Et vous voyez qu'il ne parle pas de choses extérieures, au sens de choses que d'autres pourraient nous faire, ou de biens qu'on pourrait avoir ou pas, ou de la santé qu'on pourrait avoir ou pas. Ce qui compte, c'est plutôt notre comportement, c'est notre manière de vivre, notre manière d'être. Vous savez qu'à la fin de l'Épître, on aura bientôt ce passage-ci, Paul dit qu'il a appris à vivre dans l'abondance et dans la pauvreté, et en gros, il dit que ça ne change pas grand-chose, en fait. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que nous marchons dans l'intégrité? Est-ce que notre vie sert l'Évangile, reflète la beauté de l'Évangile? Est-ce que notre vie est digne de l'Évangile? Est-ce que c'est une vie de citoyen du royaume, comme il dit aussi dans ce passage? Vous le savez sans doute que partout où on va, on est toujours des ambassadeurs. Souvent, on n'aime pas trop ça, hein. On préférerait pouvoir être un petit peu anonyme, mais ça n'existe pas. Ce que l'on fait à l'étranger ou ce que l'on fait à un étranger, c'est toujours un Français qui l'a fait. Vous avez déjà remarqué ça? Puis nous, on pense aussi comme ça, hein. Si quelqu'un nous coupe la route et c'est un Français, c'est un imbécile. Mais si c'est un Hollandais, c'est un Hollandais. Vous avez déjà remarqué ça, hein? Donc on doit certainement apprendre à être un petit peu, voilà, hein, bon, à ne pas mettre des étiquettes sur les autres, mais il faut être conscient que les autres nous mettent aussi des étiquettes. Nous sommes toujours des ambassadeurs, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Ouais. Je me rappelle, il y a des grandes discussions à table pour savoir s'il fallait mettre un poisson derrière sa voiture. Parce que certains disaient, vu la manière dont je roule, il vaut mieux que j'aie pas un poisson, quoi. Bon, on avait plutôt tendance à lui dire, mets un poisson et roule comme un chrétien, mais bon, voilà. Nous sommes toujours des ambassadeurs. On n'a pas vraiment le choix, quoi. Est-ce que notre vie est digne de l'évangile de Christ, comme nous dit ce passage de la parole de Dieu? Et Paul résume ici très courtement le... Merci Bruno qui suit très bien. très courtement ce que c'est un comportement chrétien. Alors, j'anticipe pas trop, on va être court parce qu'il le développe beaucoup plus dans le chapitre 2 qui sera le sujet de ma prochaine prédication. Il résume cela en trois points. Persévérer dans la foi, être unis, l'amour mutuel entre les chrétiens, et puis lutter ensemble pour l'évangile. Il va donner d'autres éléments et puis il va surtout préciser ces éléments, les développer dans la suite. Mais voilà en tout cas les trois points que nous sommes appelés à vivre avec persévérance, parce que c'est ça une vie digne d'un chrétien. Persévérer dans la foi, vivre dans l'amour mutuel et lutter ensemble pour l'évangile. Dans le même sens, il va dire aussi que l'évangile vaut mieux que les querelles de clochers. Ça fait partie de l'unité, hein, et de l'amour mutuel. Alors, bien sûr, à l'époque de l'apôtre Paul, il n'y a pas de clocher, donc vous comprenez bien. Hein, mais bon, vous comprenez bien ce que je veux dire par là. L'évangile vaut beaucoup mieux que nos querelles de clochers. On le voit dans les passages qu'on a lus, on ne va pas relire toutes ces parties-là. Il y a une sorte de concurrence entre les chrétiens. Il décrit ici l'église de Rome, il est à Rome. Hein. Voilà. Il semble que certains à Rome souhaiteraient faire plus d'adeptes. Alors certains veulent faire le plus d'adeptes possible, le plus de chrétiens possible, c'est bien, mais certains veulent surtout faire plus d'adeptes que les voisins. On parle de personnes qui annoncent l'évangile par esprit de rivalité et par jalousie. C'est curieux ça quand même, hein. De quoi parle-t-on ici? Alors, je vous propose de faire un double détour. Essayez d'imaginer de quoi il parle. D'abord, parlons un peu de l'Épître aux Romains, et ensuite, en parlant un petit peu des choses qu'on peut parfois observer dans nos églises. Voilà, je vous rappelle, Paul est à Rome, il observe ce qui se passe dans les églises de Rome, et donc, quand on feuillette un petit peu l'Épître aux Romains, on se rend compte que l'apôtre Paul fait bien attention de parler à l'église de Rome, comme s'il y avait une seule église. Quand on lit réellement entre les lignes, et surtout dans les salutations, on voit qu'il y a à Rome plusieurs églises qui se réunissent dans plusieurs foyers différents, et on se rend bien compte qu'entre chacune de ces églises, il y a une certaine, on va dire, tension, pour le moins. On va dire que chacun pense qu'il est finalement plus saint, plus juste, plus digne de l'évangile que les autres. Alors, je vous ai mis, je crois, un petit extrait de Romains dans le PowerPoint, mais je vais vous en lire trois rapidement. Romains 14, 1, « Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans contester sans cesse ses opinions. Cessons de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. » C'est 14, 13. Et encore 15, verset 1, « Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. » Vous voyez ici l'insistance de l'apôtre Paul. Si certains pensent qu'ils sont plus saints que les autres, il dit « pourquoi pas ?» Mais si réellement tu l'es, alors tu es chargé d'aider tes frères et sœurs, pas de les critiquer. En gros. Alors, si Paul écrit cela aux Philippiens, c'est qu'il sait bien que ce type de petite guéguerre entre chrétiens existe aussi dans l'église de Philippe, malheureusement. Et dans la suite, on va voir qu'il y a notamment des enseignants qui, chacun, veulent tirer la couverture à eux-mêmes. Paul va exhorter fortement à l'unité et surtout à l'humilité. Ce sera le grand thème du chapitre suivant. Mais en premier lieu, ici, il rappelle qu'il y a un seul évangile et que cet évangile est bien plus précieux que tout le reste. C'est l'évangile qui compte. Ce qui compte, c'est l'évangile et non pas ma vie ou mon clan ou ma famille ou je ne sais pas quoi d'autre encore. Est-ce que ma vie sert à glorifier l'évangile de Christ, pour ne pas dire glorifier Christ lui-même? Bon. Il dit que quelques-uns sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Et il dit surtout que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, Christ est annoncé et je m'en réjouis. Ce qui compte, c'est que l'Évangile soit proclamé. Bon, sur la diapo suivante, je vous ai mis deux, trois idées, des choses qu'on observe parfois dans nos églises, malheureusement, qui peut être aussi ce que Paul pourrait avoir en tête. Mais vous rappelez, son enseignement principal, c'est de dire, regarde à l'Évangile. Avant tout à l'Évangile, pas à tes propres dadas, quoi. Alors, parfois, on peut voir qu'on peut annoncer l'Évangile par culpabilité. J'annonce l'Évangile pour me sentir un bon chrétien, ouais. Plutôt que par amour pour Jésus. Je peux aussi annoncer l'Évangile par le besoin de prendre ma revanche, on va dire ça comme ça, envers les grandes églises, surtout les grandes églises que je considère comme déviantes. Voire pour certains de démontrer, par exemple aux Français, que leur culture est déviante. Vous voyez, ce désir de prendre sa revanche. Ça flatte toujours notre ego, on va le dire comme ça de manière un peu directe. Hein. Quelque part, ça flatte notre ego quand un catho reconnaît son erreur et vient chez moi. Ouais. On peut aussi parfois évangéliser par plaisir de dénoncer les travers des autres, vrais ou imaginés. Ouais. J'avoue que je suis parfois très gêné par certains tracts d'évangélisation qui ne présentent pas l'Évangile, mais qui présentent toute une liste de péchés des personnes. Le problème, c'est que je donne ce tract à quelqu'un, je ne le connais pas. Il n'a peut-être rien à voir avec ça. Peut-être, d'ailleurs. Peut-être oui, peut-être pas. Mais on a parfois un certain plaisir à montrer aux autres qui sont mauvais. Parfois, on peut évangéliser par le désir de se faire bien voir dans notre Église. Ouais. Voir, y prendre un certain pouvoir, parce que c'est bien d'évangéliser. Ouais. Est-ce que j'annonce l'Évangile à cause de l'Évangile ou pour une autre raison ? Dans le même ordre d'idée, parfois, je perçois le plaisir de faire la leçon à d'autres chrétiens, en leur montrant qu'ils ne sont pas assez zélés pour l'évangélisation, alors que moi, on l'est. Et parfois, on évangélise aussi par le besoin d'activité, parce que la semaine est un petit peu trop calme. Voilà. Vous savez que mon point de vue, c'est de dire, il vaut mieux que nous nous investissions dans les clubs, les associations de la ville, parce que c'est là qu'on va rencontrer des gens à évangéliser, plutôt que surcharger notre programme d'église. Mais parfois, il y a cette demande. Et comme le dit l'apôtre Paul, heureusement, beaucoup évangélisent avec sincérité. C'est finalement ça qui compte, et on remercie et on félicite cela. Mais oui, on doit aussi parfois purifier un peu notre cœur. C'est aussi ça, être digne de l'Évangile. Évangéliser parce que l'Évangile vaut bien mieux que moi. Encore un point, encore une manière de dire que l'Évangile vaut mieux que notre vie. Je l'ai marqué ainsi, l'Évangile vaut mieux que ma santé. Au verset 29, l'apôtre Paul dit ceci, « Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Waouh ! Ouais ? Encore une manière de dire que l'Évangile vaut mieux que notre vie. Encore une manière de dire, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est de l'Évangile que je suis fier. » Alors c'est sûr que c'est une manière un peu particulière de parler de la souffrance, et que je ne sais pas si je suis... Voilà, j'aime beaucoup cette manière de faire, mais quand même, c'est une pensée très vraie et très précieuse. Pas facile de voir comme une grâce, comme une opportunité, comme une chance, les souffrances pour Christ. Vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps, j'avais prêché sur Ésaïe 66, où Ésaïe parle des souffrances comme d'un accouchement. Autrement dit, les souffrances produisent de la vie. Pas forcément comme ça qu'on le vit. Hein. Pourquoi est-ce une grâce de souffrir ? Bon, je vous propose plusieurs réflexions à ce sujet. D'abord, je pense que c'est un peu l'image des sportifs. C'est beaucoup plus glorieux de transpirer sur le terrain que de se la couler douce dans un fauteuil devant sa télévision. Vous êtes d'accord avec ça ? Et admettons-le, il y a beaucoup de raisons bien plus stupides de souffrir que de souffrir à cause de Christ. Ouais. Mais surtout, je pense que dans notre société, la santé est une sorte d'idole, une sorte de valeur supérieure. Et la santé, ou surtout la recherche d'absence de souffrance, est souvent considérée comme une sorte de valeur supérieure. Ouais. Il n'y a pas si longtemps, la valeur la plus importante, c'était d'assumer ses responsabilités, surtout envers sa famille. Aujourd'hui, la valeur la plus importante, c'est de ne pas souffrir. Et dans ce cadre-là, montrer que pour nous, Christ vaut bien mieux que la souffrance, c'est un vrai message fondamental dans notre société. Il ne s'agit pas de dire qu'on aime la souffrance, c'est pas ça. Mais qu'on aime encore beaucoup mieux Christ, pour le dire comme ça. De quel type de souffrance parlons-nous ainsi ? Alors, si on prend l'Épître aux Philippiens, il y a sans doute l'opposition des adversaires de l'Évangile. Ils sont persécutés, nos amis philippiens. C'est aussi le prix à payer pour marcher avec Christ. À l'époque, beaucoup de commerçants refusaient de servir des chrétiens. Et beaucoup de clients refusaient d'aller chez un commerçant chrétien. Des fiancés rompaient les relations parce qu'ils s'étaient convertis. Et puis, sans doute, il y a toujours un prix de choisir de plaire au Seigneur plutôt que de suivre mes désirs. C'est toujours une souffrance aussi. Et puis, sans doute, à l'image de Paul, le défi de chercher le bien de l'Église, le bien du Seigneur. Ouais. C'est pas simple, hein ? Ça provoque une certaine souffrance, un certain renoncement à soi. Fondamentalement, c'est un honneur de partager avec Jésus les événements qui le font souffrir lui. Tu peux mettre la prochaine diapo, j'ai remis ce verset. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par lequel il sauve tous ceux qui croient. En guise de conclusion, j'avais juste envie de rappeler deux courts témoignages de nos amis huguenots. Vous savez qu'à l'époque de Louis XIV, il y a eu à peu près partout en Europe des persécutions assez fortes contre les protestants. Et j'ai trouvé intéressant leur approche des choses. Alors en France, au tout début des persécutions, on avait l'habitude d'exécuter les protestants en place publique. Alors surtout les pasteurs, hein, c'était les prédicateurs qu'on exécutait. Les autres, on les envoyait aux galères. La raison, c'était qu'on voulait faire un exemple. Donc on le faisait publiquement. Le problème, c'est que pendant qu'on préparait l'exécution, la personne avait l'occasion de prêcher. Et on estime que pour chaque exécution, il y avait au minimum 10 conversions. Notamment parmi les soldats du roi, ce qui posait certains problèmes finalement. Alors ils ont essayé toutes sortes de choses, de manière pour essayer de les empêcher de parler. Et notamment, une des choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils jouaient du tambour, comme ça ils ne pouvaient pas parler. Ouais. Et on raconte que le frère de Marie Durand, vous connaissez peut-être Marie Durand, qui a vécu presque toute sa vie enfermée dans la tour de Constance, c'était un jeune pasteur qui a été arrêté, et donc lui, il a prié pour qu'il pleuve. Comme ça, les tambours étaient mouillés, et ils n'ont pas pu faire de bruit. Ouais. Et comme ça, il a pu chanter des cantiques et prêcher l'Évangile. C'est étonnant, vous voyez ? Il prie pour qu'il pleuve, non pas pour être libéré. Étonnant, hein ? Ou il y a un exemple d'un ménonite hollandais qui devait être brûlé. Les Hollandais, ils brûlaient les gens plutôt que les pendre comme les Français. Et il a crié à son bureau au moment où il voulait mettre le feu au bûcher. Il a dit « Arrêtez, arrêtez !» Alors ils ont dit « Ah, super, il va abjurer, quoi !» Et il a dit « Écoutez, moi j'ai des chaussures, je n'aurai bientôt plus besoin, et j'ai vu quelqu'un pieds nus parmi les spectateurs. Est-ce que vous pouvez lui donner mes chaussures ?» Imaginez l'impact de cela. Parce que pour eux, l'Évangile vaut mieux que la vie. Car en ce qui concerne Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Le Seigneur nous donne la grâce de persévérer. Parce que l'Évangile vaut bien mieux que notre vie. Je vous invite à prier.